et naturel, écoutez Principe Actif, 102.4 FM.
Il est 6h à Paris, 4h en temps universel, et vous êtes sur Radio France Internationale. Gaëtan en plein et pour le journal. Bonjour Gaëtan.
Ah bonjour Edouard, bonjour à tous.
4 petites heures. Voilà, selon Donald Trump, le temps qu'il faudrait à l'armée américaine pour détruire tous les ponts et centrales électriques en Iran.
Il menace de le faire si Téhéran ne conclut pas un accord d'ici ce soir pour débloquer notamment le détroit d'Hormuz. On y revient dans ce journal et puis on parle à nouveau des conséquences économiques de la paralysie de ce détroit. On verra que le gouvernement français est mis sous pression par l'opposition. La France où l'ex-président Nicolas Sarkozy doit parler ce mardi lors de son procès en appel dans l'affaire du financement présumé libyen de sa campagne électorale de 2007. Dans ce journal, on va revenir aussi sur la visite depuis hier du président chilien José Antonio Kast en Argentine. C'est son premier déplacement officiel à l'étranger depuis sa prise de fonction. Et puis le vice-président américain J.D. Vance est lui attendu en Hongrie ce mardi. Il vient soutenir Viktor Orban en difficulté dans les sondages avant les législatives de dimanche. Des explosions entendues cette nuit à Téhéran et dans ses alentours aussi, ce sont des médias iraniens qui l'annoncent, alors que l'armée israélienne affirme mener une vague de frappes dans le pays. Il y avait pourtant une proposition de trêve mise sur la table par plusieurs États médiateurs, mais rejetée hier par Washington et par Téhéran aussi d'ailleurs, d'après l'agence de presse gouvernementale IRNA. Reste l'ultimatum fixé par le président américain. Il a donné à l'Iran jusqu'à la nuit prochaine, minuit en temps universel, pour conclure un accord et débloquer le détroit d'Hormuz. Sinon, prévient Donald Trump, l'armée américaine visera des infrastructures civiles du pays, des ponts, des centrales énergétiques. Le pays entier pourrait être détruit en une seule nuit. dit même le locataire de la Maison Blanche qui donnait hier une conférence de presse. L'occasion de montrer les muscles, mais aussi de s'en prendre une fois de plus à ses alliés et à l'OTAN, à qui il reproche un manque d'implication dans ce conflit. Des critiques alors même que le secrétaire général de l'Alliance transatlantique est attendu à Washington cette semaine. On écoute Donald Trump.
L'OTAN est un tigre de papier. Poutine n'a pas peur de l'OTAN. Il a peur de nous, très peur de nous. Nous n'avons pas besoin de l'OTAN. Ils ne nous ont pas aidés. Ils ont même fait le contraire. Mais il n'y a pas que. Vous savez qui d'autre ne nous a pas aidés ? Le Japon, l'Australie et la Corée du Sud ne nous ont pas aidés. D'autres pays nous ont aidés. L'Arabie Saoudite a été excellente, le Qatar a été excellent, les Émirats Arabes Unis, Bahreïn, le Koweït. L'OTAN est un tigre de papier. Il vient me voir mercredi, comme vous le savez. C'est un type génial, le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte. C'est une super personne. Mais si vous voulez connaître la vérité, tout a commencé avec le Groenland. On voulait le Groenland, mais ils n'ont pas voulu nous le donner. Alors, je leur ai dit au revoir.
Bye bye. Le président américain qui par contre doute étrangement moins du soutien des Iraniens. Pour lui, ils veulent que les frappes se poursuivent et ils sont prêts à souffrir, dit-il, pour faire tomber le pouvoir actuel. Face aux menaces du locataire de la Maison Blanche, l'armée iranienne dénonce une rhétorique grossière et arrogante pour, je cite, justifier les défaites successives des Américains. L'armée israélienne, elle, annonce que des missiles iraniens sont en train de se diriger vers le pays et que les défenses aériennes sont en action pour les intercepter. L'Arabie Saoudite dit justement avoir intercepté 7 missiles balistiques ce matin. Des débris sont tombés près d'installations électriques. On ignore pour l'heure s'il y a des dégâts. Et puis au Kurdistan irakien, les autorités font état de 2 civils tués après qu'un drone venu d'Iran et chargé d'explosifs s'est écrasé sur une maison dans la province d'Erbil, où le gouverneur dénonce sur Facebook une violation du droit international et un crime de guerre. Et puis après plusieurs reports, c'est aujourd'hui 15h en temps universel que le Conseil de sécurité de l'ONU doit se prononcer sur un projet de résolution sur le détroit d'Ormuz. Alors au départ, l'idée c'était d'autoriser l'emploi de la force pour débloquer ce point de passage stratégique pour le pétrole mondial. Mais finalement, selon nos confrères de l'AFP qui ont pu consulter la dernière version du texte, le ton est un petit peu redescendu. Condamnation des attaques iraniennes contre des navires dans ce détroit et encouragement des États concernés à, je cite, coordonner les efforts de nature défensive et proportionnée aux circonstances pour assurer la sécurité de navigation. Le texte prévoit quand même que le Conseil pourrait ensuite envisager d'autres mesures si cette liberté de navigation n'était pas permise. C'est bien le cas pour l'instant et ça fait flamber, on le sait, les cours du pétrole. Les automobilistes français en sentent chaque jour un petit peu plus les effets sur leur portefeuille. Alors le gouvernement doit annoncer de nouvelles aides ciblées en ce début de semaine. Raphaël Delvolvé, l'exécutif français, se retrouve sous forte pression des oppositions, à commencer par le Rassemblement National.
Comme depuis des années et plus encore depuis le début de la guerre, le pouvoir d'achat est le terrain de jeu favori de l'extrême droite. Le Rassemblement National martèle sa demande de baisse de la TVA sur les carburants et demande désormais un budget rectificatif quand la gauche demande plus d'aide pour les ménages. Les oppositions appuient là où ça fait mal, à un moment où le gouvernement est pris en étau. Ces aides ciblées annoncées au compte-gouttes reçoivent un accueil mitigé et sa marge de manœuvre est faible, déficit oblige. S'ajoute à cela des erreurs de communication, la dernière sur l'existence de surplus fiscaux d'abord niés puis reconnus, ou encore sur les conséquences de la crise, annoncées comme limitées à quelques centimes à la pompe début mars, alors que depuis le 27 février, l'essence coûte 17% plus cher et le gazole 34%. De quoi alimenter une inquiétude, voire une colère des Français déjà vue par le passé avec les gilets jaunes et crainte par tout exécutif.
Raphaël Delvolvé du service politique de RFI. Pendant ce temps, le président français Emmanuel Macron est lui attendu à Lyon ce mardi dans l'est du pays. Il doit s'exprimer lors d'un sommet international consacré à la santé. Les ministres d'une vingtaine de pays sont également attendus, de même que les dirigeants de 4 pays, dont ceux du Botswana et du Ghana notamment. Il est 6h06 à Paris après la casse-prison. Nicolas Sarkozy de retour au tribunal, toujours pour la même affaire, celle du financement présumé de sa campagne présidentielle par le régime syrien en 2007. Cette fois, c'est le procès en appel. Il s'est ouvert il y a 3 semaines et l'ex-chef de l'État français a été très assidu, hein, pas une audience manquée. Pour celle du jour, c'est à lui d'être interrogé par la Cour. En première instance, rappelons-le, il avait été relaxé de plusieurs chefs d'accusation, mais condamné à 5 ans de prison ferme pour association de malfaiteurs en vue de la préparation du délit de corruption. Ça lui a valu donc une 20aine de jours derrière les barreaux. Laura Martel.
En première instance, le tribunal avait pointé que si des flux d'argent étaient bien partis de Libye, le dossier ne permettait pas de démontrer qu'ils aient alimenté la campagne de Nicolas Sarkozy. Il avait ainsi été relaxé de faits de corruption. Restait l'association de malfaiteurs. En droit, des éléments préparatoires suffisent à caractériser ce délit, même si le but visé n'est pas atteint. En l'occurrence, les juges avaient estimé qu'il existait un faisceau d'indices précis, graves et concordants, montrant que l'ex-président avait laissé Claude Guéant et Brice Hortefeux solliciter les autorités libyennes pour obtenir des fonds et envisager des contreparties pour la Libye. Au cœur de cette conviction, les rencontres en 2007 de Claude Guéant puis Brice Hortefeux avec Abdallah Senoussi, haut dignitaire libyen condamné pour terrorisme en France. En ce début de procès et en l'absence de Claude Guéant pour raison de santé, Brice Hortefeux n'a eu de cesse de distancer Nicolas Sarkozy de ses rencontres, martelant que l'ex-président n'en avait jamais été informé, ni à l'époque, mais pas même en 2012, lors des premiers soupçons dans la presse. Mais quand Nicolas Sarkozy lit l'article de Mediapart, il ne vous dit pas c'est quoi cette histoire avec Senoussi ? S'est étonné le président ? Non, a murmuré l'ex-ministre après un silence. C'est désormais par sa propre voix que l'ex-président va défendre son innocence durant les 4 jours prévus pour son interrogatoire.
La précision de Laura Martel. Au Vietnam, le chef du parti communiste Tô Lâm est désormais aussi le président du pays. Il a été élu par le Parlement. C'est la première fois qu'une seule et même personne occupe ces deux fonctions en même temps. C'est une vieille tradition pour chaque président chilien. L'Argentine comme première visite officielle. José Antonio Kast a respecté cette tradition. Quelques semaines seulement après avoir prêté serment, il est arrivé hier à Buenos Aires, reçu par son homologue Javier Milei. Et d'un côté comme de l'autre, on sentait bien que c'était presque plus du plaisir qu'un simple respect des usages, alors que les deux hommes ne cachent pas leurs affinités sur le plan idéologique. Correspondance à Buenos Aires de Théo Conscience.
C'est tout sourire et avec une accolade chaleureuse que Javier Milei a accueilli hier José Antonio Kast à la Casa Rosada, le palais présidentiel argentin. Les deux hommes qui incarnent l'avancée de l'extrême droite en Amérique latine ces dernières années ont soigneusement mis en scène leur proximité. En décembre déjà, fraîchement élu mais pas encore investi, José Antonio Kast était venu à Buenos Aires se faire photographier avec la célèbre tronçonneuse de Javier Milei, symbole des coupes budgétaires du président argentin que le chef d'État chilien n'a pas tardé à mettre en œuvre dans son propre pays. Dans un communiqué commun, les deux dirigeants ont assuré hier vouloir moderniser et sécuriser les quelques 5000 km de frontières qui séparent leurs deux pays. Objectif, favoriser le tourisme et les échanges commerciaux et renforcer la lutte contre le crime organisé. Dans le sillage de Donald Trump, les deux hommes se posent comme les fers de lance latino-américains de la bataille culturelle menée au niveau mondial par l'extrême droite contre le féminisme, l'écologie et plus généralement contre le progressisme. Théo Conscience, Buenos Aires, RFI.
Au Nigeria maintenant, l'opposition ADC dénonce un acharnement de la part du gouvernement contre ceux qui ont rallié cette coalition du Congrès démocratique africain en tournant le dos à l'APC, le parti majoritaire dont deux anciennes figures sont toujours poursuivies par la justice, Lisa Fabian.
La loi est appliquée de manière sélective car nous connaissons des gens qui ont fait bien pire, a déclaré récemment à la radio Peter Obi, aspirant candidat à l'élection présidentielle pour la coalition d'opposition ADC. L'ancien gouverneur de Kaduna, Nasir El Rufai, devrait comparaître le 14 avril devant la justice qui examinera sa demande de libération sous caution avant l'ouverture de son procès 10 jours plus tard. Il est détenu depuis février par la commission indépendante de lutte contre la corruption pour des soupçons de malversation durant son mandat de gouverneur. Nasir El Rufai a été libéré brièvement pour assister à l'enterrement de sa mère, décédée à la fin du mois de mars. D'autre part, la commission des crimes économiques et financiers du Nigeria poursuit également l'ancien ministre de la justice, Aboubakar Malami, pour blanchiment d'argent et acquisition illégale de biens. Celui-ci a dénoncé récemment la saisie de sa résidence familiale d'Abuja. Il estime que l'expulsion musclée de sa famille par des hommes en armes était illégale et irrégulière, puisqu'une procédure judiciaire est toujours en cours à ce sujet.
Précision de Lisa Fabian. J.D. Vance est dans l'avion. Le vice-président américain est attendu en Hongrie ce mardi pour une visite de 2 jours. L'Europe et l'Ukraine seront discutées, a-t-il assuré avant de décoller, mais c'est surtout une visite de soutien au premier ministre hongrois avant les élections législatives de dimanche. Viktor Orban est en difficulté dans les sondages, menacé de ne pas conserver son poste et ça ne ferait pas les affaires de Washington, alors que l'administration de Donald Trump n'hésite pas à prendre position pour les dirigeants européens jugés compatibles avec les intérêts américains. Correspondance à Budapest de Florence Labruyère.
Il y a quelques semaines, le secrétaire d'État américain Marco Rubio venait à Budapest. « Je souhaite votre succès aux élections », avait-il dit à Viktor Orban. Cette fois, c'est au tour du vice-président américain de soutenir le premier ministre hongrois. Pour les républicains américains, Orban est un modèle. Il a fait du Trump avant Trump. Dès 2010, le dirigeant hongrois a pris le contrôle des médias et des institutions dans son pays et distribué des contrats à son entourage. Cela fait longtemps que Viktor Orban avait invité Donald Trump en Hongrie, mais la guerre avec l'Iran complique l'agenda du président américain. Orban doit donc se contenter du vice-président. La visite de ce dernier n'intéresse pas vraiment les Hongrois. Ce sont les thèmes de politique intérieure qui dominent la campagne. Les analystes estiment que la venue de Jed Vance ne fera pas remonter Viktor Orban dans les sondages, mais elle permettra aux médias pro-gouvernementaux de mettre en valeur le Premier ministre et de souligner que Washington est un allié indéfectible de la Hongrie. Florence Labruyère, Budapest. RFI.
Et puis 40 minutes de coupure cette nuit entre la NASA et les astronautes d'Artemis, mais pas de panique, c'était prévu puisqu'ils sont passés derrière la Lune et étaient donc injoignables. La communication a depuis été rétablie. Les quatre astronautes sont devenus il y a quelques heures les êtres humains à s'être aventurés le plus loin de la Terre. Ils vont maintenant faire le tour de la Lune. Il est 6h et quasiment 13 minutes à Paris.
Gaëtan Plenet.
4h13 en temps universel. On est encore ensemble pour une petite vingtaine de minutes. Après ça, ce sera le retour de l'actualité africaine. D'ici là, on est à Jérusalem. On va parler des élections législatives qui approchent en Israël, même si on n'a pas encore la date exacte. Ça pourrait être plus tôt que prévu. On va prendre le pouls de la jeunesse qui penche de plus en plus à droite. Raphaël Feuillatre sera notre invité culture ce matin, guitariste français né à Djibouti. Il sera ce soir l'une des têtes d'affiche du festival de Pâques d'Aix-en-Provence. Et puis la rumination mentale, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est vraiment si négatif que ça? On voit ça dans le Conseil Santé du jour. Mais d'abord, on part sur les bancs de l'école. L'école française, mais pas en France, non, l'école française de l'étranger. Il y en a un petit peu partout dans le monde. Près d'un demi-million d'élèves y sont scolarisés. C'est l'un des instruments du soft power français. Et ça va coûter plus cher qu'avant dès la rentrée prochaine. Une hausse des frais de scolarité décidée par l'État et dénoncée par les parents d'élèves. Pour certains, c'est absolument inadmissible. Ils préfèrent carrément ne plus y envoyer leurs enfants. Ça risque de contrarier quelque peu les plans du président français Emmanuel Macron, qui en 2018 avait demandé le doublement du nombre de ses élèves à l'étranger. Reportage à Barcelone où, à terme, on craint une privatisation de ces établissements. Élise Gazangel.
Français, espagnol, catalan et même anglais. Au lycée français de Barcelone, les langues se mélangent dans la cour de récré. Au total, près de 3000 enfants polyglottes sont scolarisés de la maternelle à la terminale ici.
Bonjour Octavio.
Mais à la sortie, les parents ne parlent que d'une chose, l'augmentation de 9,5% des frais de scolarité pour la rentrée prochaine. L'explication vient de l'État français qui a décidé de faire payer aux établissements basés à l'étranger les pensions des fonctionnaires et une partie du déficit du ministère. Yannick Autré, président de l'association des parents d'élèves, l'APE.
On a été surpris, abasourdis, on a crié un peu à l'injustice et puis maintenant c'est mobilisé. Donc on a fait aussi des mesures et des actions qui visent à suspendre cette décision.
C'est à toi que je parle, je te sais dans la foule, perdu mort dans tes larmes, pour ne pas qu'elles coulent. Entre lui et moi, il faudra choisir, entre toi et moi, j'ai envie de te dire que lui c'est personne, il cache bien son nom, moi son nom je te le donne. Il s'appelle Illusion, alors c'est pas mon histoire, mais est-ce vraiment la tienne? Une ombre dans le brouillard, je voudrais que tu reviennes. Tu verrais que chez nous, ça y est j'ai fait le ménage. Je parle avec le loup, il m'écoute davantage. J'ai semé du silence pour que tu te reposes. Je garde mes distances et t'attends avec des roses. Sur mes lèvres, viens lire, la promesse y est écrite. Je pardonnerai le pire, et que les meilleurs s'en suivent. Ça c'est pas de l'amour, alors c'est de la pure folie. Demain il fera jour, mais quelle est longue cette nuit. Je t'envoie un baiser, donne-lui une chance. Je voulais te dire, j'ai changé, refaisons connaissance. Je voulais te dire autre chose, on n'est pas un couple ordinaire. Aime-moi si tu l'oses, à moins que tu préfères un miroir aux alouettes, toujours de ton côté, qui fait oui avec la tête, mais la garde baissée. Il te pousse au mensonge pour ne pas être mêlé au chagrin qui me ronge, qu'il devrait assumer. Je voulais te dire que je t'aime, malgré tout ce que je sais. Je voulais te dire que je t'aime, que le prix, je l'ai payé. Je voulais te dire que je t'aime, que le prix, je l'ai payé. Et que le prix, je l'ai payé.
Chanteurs du groupe NTM, Nick Tamer, ont été condamnés par le tribunal de grande instance de Toulon à 3 mois de prison ferme et à 6 mois d'interdiction d'exercer leur métier sur l'ensemble du territoire français.
Scandale avec les syndicats policiers, premier scandale, à cause de bougie de femme de flic. Deuxième scandale en 95, dans le deuxième CD, donc qui s'appelait 95200, avec Sacrifice de poulet.
Monsieur R, dont le dernier album, politiquement incorrect, s'est attiré les foudres d'un député du Sud.
Nicolas Sarkozy a même aussi annulé le concert qui devait avoir lieu la semaine dernière. Les membres de Sniper ont évidemment répliqué aussitôt.
La rumeur existe depuis 1996. Et d'ailleurs, le ministère de l'Intérieur a porté plainte contre vous. Il y aura un procès parce que vous avez déclaré « Des centaines d'entre nous sont tombés sous les balles de la police ».
La chanson de Youssoufa, il faut la citer quand même. C'est « Je mets un billet sur la tête de celui qui fera taire ce con d'Éric Zemmour ». C'est une menace de mort.
Les accusations sont graves, mais comme d'hab, on fait un vexé. Vrai qu'on est trop hard, et puis notre art est de vous vexer. Pas de menace de mort, le rap ne sort pas de douille, mais c'est le seul son hardcore depuis que le rock n'a plus de couilles. C'est un nouveau record de polémique, on dit que je chante le mal. Je vous l'avais dit qu'il y a des indices, les dizaines chantent le mal. Et dans leurs bêtises, ils confondent crime et islam. Ils m'auraient trouvé plus gentil si je ne faisais que du slam. Coupable idéal, MC mercenaire. La rumeur dit que les NTM sont des snipers de la morale comme Monsieur R. Pas facile d'ignorer ça, pas facile d'opérer seul à la place de Rorelsan. Moi c'est clair que j'aurai le seum. On a les critiques imparables d'une France qui oublie que les paroles de son hymne sont plus violentes que celles du gangsta rap. Je défends la cause des frères au sud qui rêvent du nord, mais ma liberté d'expression en chute est sous menace de mort. Yeah, il est grand son, ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Sont illégales, je fais du rap et ce que t'entends est illégal. Yeah, il est grand temps, ça déménage. Il n'y a jamais de temps, temps irrémédiable. Yeah, les enfants sont illégales. Je fais du rap et ce que t'entends est illégal.
Je pense que le rap est une sous-culture, hein, d'analphabète. Mais je suis désolé, vous avez déjà entendu les paroles des rappeurs.
Depuis le temps, je guettais ce type qui vous mène à la baguette, mais parle de race en tête et puis nous traite d'analphabète. J'ai dit que j'étais du genre à pour qu'un juge m'inculpe pour menace de mort. C'est ça, mec. Il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Yeah. Les sentences sont illégales. J'ai du rap et ce que dans ce temps est illégal. Yeah. Il est grand temps que ça déménage. Il n'y a jamais de temps irrémédiable. Yeah. Les sentences sont illégales. J'ai du rap et ce que dans ce temps est illégal. Bien sûr qu'il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position.
Y a de la rage dans nos propos.
Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose.
J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition.
Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position.
Il y a la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. Je plaide la légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position.
Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Il y a de la rage dans nos propos. Mais comment rester sage vu l'image de la vie que l'on nous propose. J'ai plaidé légitime défense dans ma déposition. Qui peut prétendre faire du rap sans prendre position.